Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Aujourd'hui, une chef d'orchestre vénézuélienne et les 35 ans d'un jeu vidéo culte. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, Eva Rock pour le zapping du lendemain et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences du week-end par Louise Bernard. Notre info média va s'intéresser à la place des femmes dans les médias, trop faible encore, surtout dans les postes de direction. Focus sur un programme spécifique, ça s'appelle Source, et ce programme accompagne les femmes qui veulent lancer ou développer de nouveaux médias. Programme conçu pour des femmes et par une femme, Émilie Friedli, elle sera avec nous et pas toute seule. Puis nos invités, Samuel Etienne, journaliste et présentateur qui célèbre aujourd'hui ses 5 ans à la tête de Questions pour un champion sur France 3, mais il fait également un tabac sur Twitch depuis quelques semaines, Twitch la chaîne des gamers avec la création de son émission à lui. À sa suite, TF1 annonce une chaîne sur Twitch en mars, et on le sait depuis ce matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal annonce une émission mensuelle avec des jeunes. Enfin, le romancier et chroniqueur Patrick Besson, pour son nouvel ouvrage Niceville, récit de souvenirs à base d'amour et de bonne chair sur fond d'humour et de scud. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Il y a de la surprise dans les audiences.
Tout à fait.
J'ai hâte. Bonjour Antoine Genton.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Est-ce qu'il y a de la surprise au sommaire de votre journal des médias ?
De la surprise, je ne sais pas, mais le sommaire, le voici. Un défi lancé par l'Élysée, une nouvelle émission sur France 5 et puis l'anniversaire d'un des plus grands quotidiens français.
Oh, le défi de l'Élysée, c'est quand même une surprise. Les audiences d'abord avec vous Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir ?
Eh bien la petite surprise, c'est que c'est France 3 qui prend la tête avec le lancement d'une toute nouvelle série britannique. 3 320 000 téléspectateurs. Spectateurs, 14,6% de part d'audience.
Le nom de la série ?
J'ai un trou complet.
On va le retrouver.
Oh là là, j'ai un trou complet, pardon. Ensuite, c'est France 2 qui se classe deuxième avec première année. C'était sa première diffusion en clair sur les étudiants en médecine. Hein. 3 260 000 téléspectateurs, 14,3% de part d'audience. Et ensuite, c'est TF1, hein, juste derrière, enfin non, loin derrière, 2 860 000 téléspectateurs, 13,3% de part d'audience. TF1 qui paye peut-être le fait que c'était la quatrième fois au moins que Charlie et la chocolaterie étaient diffusés.
Le film, oui, film très attendu, mais peut-être trop attendu ou plutôt trop vu.
Exactement.
Et la série des carnets de Max Liberman.
Merci, je ne l'avais pas noté évidemment. Et cerveau de lundi matin.
Et samedi soir, les audiences. Lise.
Et samedi soir, alors là, pas de surprise du tout. Hein. C'est comme la semaine dernière, l'indétournable The Voice sur TF1. En légère baisse, mais toujours puissant. Hein. 5 570 000 téléspectateurs. Deuxième, France 3, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. La chaîne proposait un nouveau téléfilm policier, Meurtre à Pont-l'Évêque. Et ça attire 5 millions de téléspectateurs. Et puis troisième, et loin derrière, cette semaine encore, France 2 et son divertissement. Les comiques préférés des Français, 2 240 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Je me tourne vers vous, Antoine Genton, c'est votre journal des médias. À la une, une chanson, un phénomène.
Oui, un morceau publié hier matin et déjà écouté près de 6 millions de fois.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières.
Appliquer les gestes barrières.
Ça reste dans la tête.
J'adore.
Effectivement.
J'adore comme il dit. Et de brebis.
C'est ce que chantent deux des youtubeurs les plus populaires, McFly et Carlito. Si je vous en parle ce matin, au-delà de la croissance fulgurante du nombre de vues, c'est parce qu'avec cette chanson, ils ont relevé un défi. Défi lancé vendredi, non pas par un autre youtubeur, hein, comme c'est souvent le cas, mais par le président de la République.
Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée.
10 millions de vues, je vous le disais, on en est déjà à près de 6 millions en moins de 24 heures. L'objectif devrait donc être vite atteint. Et le président devrait recevoir McFly et Carlito à l'Élysée. Pourquoi faire ? Eh bien, et cela a été validé hein, par le responsable de la communication numérique de la présidence pour participer avec eux à un jeu, à un concours d'anecdotes. C'est l'un de leurs formats les plus connus. Les participants doivent écouter une anecdote et deviner si elle est vraie ou fausse. Et s'ils se trompent, ils ont un gage. Des gages qui, pour le chef de l'État, seront épiques. C'est le mot choisi par McFly et Carlito. On est curieux de voir ce que cela pourrait donner. donné avec le président en pleine pandémie et en pleine crise économique.
Et alors, que cherche l'Élysée avec cette opération de com'?
Oui, c'est bien d'une opération de com' qu'il s'agit. Eh bien, l'Élysée cherche à atteindre un public jeune, public chez qui le duo est très populaire. McFly et Carlitos, c'est un peu plus de 6 millions d'abonnés à leur chaîne YouTube. Public pas toujours très respectueux des gestes barrières selon l'exécutif, d'où l'idée de cette chanson dans laquelle les deux YouTubers se mettent en scène avec un certain humour.
Il se peut que potentiellement, peut-être, j'ai accepté un apéro. Mais je suis rentré avant le couvre-feu. C'est faux.
19h12.
Ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce. Pardon, monsieur Castex. J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous, elle a survécu.
Mais je te promets,
McFly et Carlito ont
précisé. Ça fait rire.
McFly et Carlito ont précisé que tout l'argent généré par cette vidéo sera reversé à des structures qui aident les étudiants précaires. Et je ne saurais trop vous conseiller sur le même sujet d'aller jeter un œil ou une oreille à la chronique de Bertrand Chameroy, La Touche Âme. C'était ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard, à retrouver sur Europe1.fr.
Et Bertrand Chameroy, qu'on retrouve également dans l'émission à 10h. Et ce n'est pas la seule initiative du gouvernement pour s'adresser aux jeunes, Antoine.
Gabriel Attal va lancer une émission mensuelle après-demain, mercredi, depuis l'Élysée, avec des jeunes, son nom, hashtag sans filtre. Elle sera retransmise sur Twitch et sur YouTube. Et elle devrait durer une heure et demie, une information donnée par nos confrères de LCI ce matin.
Un nouveau rendez-vous sur France 5 dès cet après-midi.
C'est Jamy, c'est son titre. Une émission avec, faut-il le préciser, Jamy Gourmaud comme animateur.
Ah oui.
Personnalité bien connue de Louise et des Français depuis les années 90. Grâce au programme culte C'est pas sorcier, c'est le grand retour donc de Jamy en quotidienne à la télévision. Un peu moins d'une demi-heure chaque jour autour du savoir et de la connaissance. On a demandé à Gaël Leblanc, producteur de l'émission, quel allait être l'esprit de ce nouveau programme.
On n'est pas là pour dispenser un savoir qui casse la tête, on est sur des choses qui sont extrêmement concernantes. On brasse beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Ce qui est assez fascinant aussi avec Jamy, si vous voulez, c'est qu'il est transgénérationnel. Il est salué dans la rue par des gens de 40, 50, 60 ans, mais aussi par des enfants. Donc il a une popularité qui est assez incroyable. Jamy est resté aussi toujours très humble, il dispense ce savoir sans se dire s'il fait un programme pour la jeunesse ou pas pour la jeunesse. Ça va être dans son atelier un moment de partage, de curiosité, il nous accueille chez lui. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a envie d'avoir des choses qui nous enrichissent, qui nous fassent grandir.
Alors contrairement à C'est pas sorcier, C'est Jamy ne sera pas monothématique, il y aura plusieurs rubriques bien définies. D'abord le sujet d'actualité du jour, le froid en hiver, la pleine lune, la mission actuelle menée par Persévérance sur Mars par exemple. Une rubrique écolo également avec toutes les bonnes idées venues de toute la France. Une autre rubrique tout en dessin pour apprendre l'histoire d'un objet ou de produit comme un sèche-cheveux ou une capsule de café. Enfin dernière rubrique, les réponses aux questions des internautes. Et ce n'est pas un hasard car le retour de Jamy tous les jours à la télévision, c'est en partie grâce à son succès sur Internet, ce succès construit pendant le premier confinement. Il avait alors créé une chaîne YouTube.
En quelques semaines, il est passé de 0 à 700 000 abonnés sur YouTube. Il tournait chez lui, c'est sa femme Manuela qui tenait la caméra. Et du coup, on voulait poursuivre aussi dans cette ambiance-là. Une conviction qu'on avait dès le départ, c'était qu'on voulait tourner chez Jamy. C'est le seul animateur de toute la télévision où on a envie d'aller parce que chez lui, c'est une caverne d'Ali Baba. Parce que chez lui, il y a des souvenirs de tous les tournages qu'il a fait. Il y a des restants de maquettes, il y a des morceaux de roches volcaniques, il y a des microscopes, il y a une planète Mars, enfin. Et Jamy, avec sa connaissance, sa curiosité, nous parle de tout ça.
Gaël Leblanc, producteur de C'est Jamy. C'est Jamy première, c'est cet après-midi à 17h sur France 5.
Et puis un anniversaire pour terminer.
Celui du journal L'Équipe, 75 ans cette année. Ce sera dimanche hein, précisément, mais les festivités commencent dès aujourd'hui dans le quotidien. Un quotidien qui a connu de nombreuses transformations, le passage à la couleur, la numérisation, le changement de taille également. Hein. Depuis quelques années, il est plus petit. Ouais. Format tabloïd, comme on dit. Toute la semaine, le quotidien propose donc de revenir sur 7 unes qui ont marqué son histoire ou qui la racontent. Aujourd'hui, c'est la toute première, celle du 28 février 1946. Beaucoup de textes, très peu d'images. Bref, elle illustre bien le chemin parcouru en 75 ans, comme l'explique Jérôme Cazadieu, le directeur de la rédaction.
Il faut savoir que L'Équipe, au début, c'est des unes où il n'y a pas de photos. Voilà, les photos vont apparaître au fur et à mesure. Je dirais que les unes vont être avec des photos et avec du texte. Voilà, un peu ce que vous pouvez connaître avec Le Monde jusqu'à la fin des années 80. Il va y avoir une vraie évolution au moment où la une va passer en couleur et puis on va faire en sorte que la une devienne l'emblème de L'Équipe. À part Libé, il n'y a pas de journal aujourd'hui qui a une une qui est aussi emblématique que celle de L'Équipe. Je dirais que le passage au tabloïd était une inquiétude à un moment donné pour nos lecteurs sur est-ce que les unes seront toujours aussi belles. Et puis, en fait, on a réussi à passer cet écueil-là.
Et à la une de l'équipe, Philippe, vous savez ce qu'il y a aujourd'hui ?
Je me doute, le PSG Monaco.
Exactement.
Monaco-PSG plutôt.
Voilà, PSG Monaco, hein, le PSG qui a été battu à domicile 2-0. Kylian Mbappé bloqué par un défenseur de l'AS Monaco hier soir, une image donc qui illustre ce nouveau revers, toutes les étapes de la fabrication des unes de l'équipe. Et bien tout cela sera raconté dans un dossier spécial dimanche dans l'équipe.
Mince, c'était à domicile ?
Et oui.
J'avais raté ça, je n'en reviens pas. J'ai cru que c'était un Monaco-PSG. Non, c'était un PSG-Monaco. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louis Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. On peut retrouver toutes ces infos et la newsletter média sur, elle s'appelle europe1.fr. Vous la trouvez, il faut juste s'inscrire. Et je précise, il y a des photos. Dans un instant, notre info média du jour, un programme de formation dédié aux femmes entrepreneuses dans les médias et la culture. Nous en parlons avec la directrice générale de l'incubateur Creatis, c'est Émilie Friedli, et l'une des fondatrices du média en ligne By Us, Lina Mangala. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Même si les femmes sont de plus en plus nombreuses à diriger des médias, ce n'est pas Europe 1 qu'on va dire le contraire, et j'en profite au passage pour saluer Constance Benquet, elles restent minoritaires par rapport aux hommes. C'est donc, entre autres, pour faire évoluer cette situation qu'un programme spécifique a été créé. Il s'appelle Source. Il s'agit d'accompagner des femmes qui veulent lancer ou développer de nouveaux médias, des femmes qui sont éloignées du monde médiatique. Source est non seulement portée par un incubateur, en clair une structure qui aide les jeunes entreprises, mais également par des femmes qui ont déjà réussi à s'imposer dans le secteur. Bonjour Émilie Friedli.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'incubateur dont je parlais à l'instant. Il s'appelle Creatis. C'est lui qui accompagne des entrepreneuses et des entrepreneurs dans le secteur des médias, mais également dans celui de la culture. Avec nous également Lina Mangala. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des trois fondatrices de By Us, un média en ligne consacré aux communautés afro-descendantes dans le monde entier, c'est-à-dire aux Afro-Américains, aux Afro-Cubains par exemple. Et pour le créer, vous avez travaillé avec Creatis. Et cette année, vous allez justement intervenir dans ce programme Source. Mais d'abord, commençons par le commencement. Émilie Friedli, on va parler du programme en détail dans quelques instants. Quelques mots sur les raisons de sa création. Qu'est-ce qui vous a poussé à le lancer ?
Alors, les raisons, c'est un triple constat. D'abord, c'est la place des femmes dans l'entrepreneuriat en général. Et ça concerne également les médias, mais les femmes sont effectivement moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses que les hommes à entreprendre. Le deuxième constat, c'est la difficulté pour les femmes qui entreprennent à obtenir des financements. Voilà. Et puis le troisième constat, c'est la place des femmes dans les médias, que ce soit dans les contenus ou dans les organisations même. Voilà. Donc on est parti de ce triple constat, ces trois problèmes qui nous ont amenés effectivement à imaginer un programme exclusivement à destination des femmes.
Voilà, je le précise, nous sommes presque quatre dans le studio puisque vous attendez un heureux événement. Est-ce que ça joue également pour le peu de place offerte aux femmes, le fait que ce sont les femmes qui donnent naissance et donc qui partent en congé maternité ?
Alors, ça joue. Effectivement, aujourd'hui, 57% des entrepreneurs sont des parents et seulement 18% sont des femmes. Et moi, c'est vrai que si j'ai lancé ce programme, c'est aussi initialement, il y a 3 ans, cette idée, elle a quand même... ça fait 3 ans que j'y pense à ce programme. Ouais. J'ai enfin trouvé des financements. Mais initialement, quand j'ai voulu le lancer, c'était pour répondre à ce problème-là, puisqu'en fait, on a accompagné des entrepreneuses qui ont vécu des situations très difficiles au moment où elles devaient gérer la maternité et l'entrepreneuriat. Et c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on aimerait essayer de traiter dans le cadre de ce programme.
Puisque vous parlez de financement, question préliminaire, parce qu'on serait venu de toute façon dans la conversation, qui finance ?
C'est le Fonds social européen qui finance, donc un outil de l'Union européenne pour financer des projets qui favorisent l'emploi et la cohésion sociale. Voilà.
Lina Mangala, je me tourne vers vous. Source est avant tout un nouveau programme, mais vous avez déjà travaillé avec Creatis, c'était en 2018. Et lors de cet accompagnement qui n'était pas réservé aux femmes, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?
Alors oui, justement, comme l'a dit Émilie, il y a tout ce travail en fait que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, c'est de varier, enfin de vraiment de matcher ta vie privée et ta vie pro avec ton projet. Ouais. Et typiquement, en fait, au moment où nous on était chez Creatis, moi j'étais enceinte de 3 mois déjà. Ouais. Et puis le Covid commençait, on venait de quitter les grèves avec les gilets jaunes. Donc nous, on se rendait chez Creatis pendant les grèves enceinte et avec la menace du Covid qui planait un peu dans les médias, on comprenait pas trop ce qui se passait. Donc on a commencé en fait chez Creatis. Donc nous, By Us, c'est un média qui existe depuis 2018. Et chez Creatis, on devait vraiment retrouver, parce qu'on était un peu en perte de vitesse, on cherchait des financements, on cherchait un nouveau souffle. Et donc, on a fait cette incubation et on a créé justement une verticale à notre média By Us qui est dédiée justement aux femmes noires. Ouais. Et ça, c'est né chez Creatis. Et Ça, c'est né au moment du Covid, au moment de tout ça.
D'un mot, qu'est-ce que vous appelez une verticale ?
Alors, c'est ce que, en gros, c'est toujours le même média, sauf qu'on va vraiment se focus sur un thème particulier. Et là, du coup, c'est les femmes noires.
Émilie Friedli, on va en venir au programme Source, je le précise, qui s'intéresse également à des projets culturels, pas seulement médiatiques, mais nous, évidemment, on a vu l'émission, on a choisi de s'intéresser au volet médiatique. À qui s'adresse-t-il ? À qui s'adresse Source ?
Source s'adresse donc effectivement à des porteuses de projets dans la culture et les médias. La culture, c'est très très large. Hein. Ouais. Ça va du cinéma à l'édition, en passant par le spectacle vivant. Et les médias, ça peut être du web, ça peut être du print. Et ensuite, c'est des formats effectivement également très variés. Ça peut être de la newsletter, de la vidéo, du podcast. Et ensuite, pour la typologie d'entrepreneuses qui nous rejoint, ça peut être des femmes qui ont une idée et qui n'ont pas encore développer leur projet, puisqu'en fait, il y a un programme qui s'appelle Prépa, qui est consacré effectivement à des femmes qui n'ont pas encore lancé leur projet. Ouais. Et puis, ça peut être également des femmes qui ont un projet depuis moins de 18 mois et qui cherchent à le développer. Et ça, c'est l'incubation qui dure 6 mois.
Mais voilà. Alors, comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'on appelle une incubation ? Ah. Ils viennent chez vous, vous prêtez des locaux. Comment ça se passe ? Toutes les jeunes femmes ou les pas jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, comment ça se passe concrètement ?
Ok. Une incubation, c'est effectivement la mise à disposition d'un espace, c'est-à-dire que ces femmes qui nous rejoignent pourront accéder régulièrement au lieu, puisqu'en fait, on est situé dans le 11e arrondissement de Paris, sur un espace de 2500 m² où résident ou travaillent environ 150 entrepreneurs. Parmi les entreprises qu'on accueille, le magazine Tétu, Louis Média, le studio de podcast, la newsletter Les Glorieuses, etc. Donc des médias très, très, très variés. Ces entrepreneuses pourront donc avoir accès à cette communauté, c'est le premier point. Ensuite, ces entrepreneuses pourront avoir accès à de la formation assez classique, très orientée business. Mmh. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce qu'on a l'habitude de proposer dans un incubateur, de la formation. Et après, les spécificités de ce programme, ça va être davantage de formation sur la question des financements, puisque c'est le nerf de la guerre et c'est le vrai sujet pour ces entrepreneuses. Davantage de formation sur la visibilité. Ces entrepreneuses, elles sont moins nombreuses, mais elles sont aussi moins visibles. Donc, on va les aider à être davantage visibles dans les médias, sur les réseaux sociaux notamment. Et puis, davantage d'action pour donner de la confiance et du réseau. Et ça, ça passe par la mise en place d'une communauté de femmes qu'on est en train de rassembler, d'agréger, qui permettra justement à ces femmes de pouvoir s'identifier, de pouvoir échanger.
D'un mot, puisque vous citiez la localisation, pas besoin d'être à Paris 11e.
Pas besoin d'être à Paris 11e, pas du tout.
Ça s'adresse à toute la France.
Ça s'adresse, c'est un programme qui est financé par le FSE et qui aujourd'hui s'adresse à des franciliennes. Donc il faut résider en Île-de-France. On aimerait bien, sur la seconde promotion, donc à partir d'octobre prochain, pouvoir ouvrir davantage, effectivement, à toute la France. Mais aujourd'hui, on s'adresse à des franciliennes.
Alors, l'incubation, c'est dans ce parcours que va intervenir et qu'intervient Lina Mangala en tant que mentor. Mais comment ça se passe concrètement ? C'est ce qu'elle va nous dire juste après une pause. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Plus de femmes dans les médias et plus de femmes au poste de dirigeante dans les médias, c'est ce qu'on recherche ici. Nous sommes pour en parler avec la directrice générale de l'incubateur Creatis, Émilie Friedli, et l'une des fondatrices du média en ligne By Us, Lina Mangala, qui travaille avec Creatis en tant que mentor. L'incubation, c'est un peu la part que vous faites auprès de Creatis. Concrètement, comment ça se passe ? Que dites-vous à celles avec qui vous travaillez ?
Voilà. Alors nous, aujourd'hui, chez By Us Media, on a déjà l'expérience, parce qu'on a déjà fait 2-3 incubateurs. Donc on sait comment ça se passe en interne et on sait les attentes que ces femmes vont avoir en fait envers nous, envers Source. Donc là d'abord, en fait, nous on va intervenir sur la partie l'exploration de soi-même en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ce qui manque d'abord. C'est qu'on va demander...
Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que l'exploration de soi-même en tant qu'entrepreneur ?
Voilà.
Je découvre quelque chose.
C'est ça. Le but, c'est de s'explorer en tant qu'entrepreneur, dans le sens où qu'est-ce que je suis ? Quelle est ma vie ? Parce qu'en fait, on est des femmes, on est maman, étudiante, quelque chose, puis entrepreneur. Et ce pont entre la personne et l'entrepreneuriat est trop peu exploité en fait dans les incubateurs. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment amener les filles à réfléchir en fait sur leur vie quotidienne, comment elles arrivent à matcher leur vie privée et leur vie pro, le fait d'être maman, le fait d'être étudiante, le fait de vivre chez ses parents.
Parce que si je vous suis, le problème n'est pas l'entreprise qu'elles veulent créer,
mais c'est l'adéquation entre le fait qu'elles veulent créer une entreprise et le fait d'être une maman et d'être une femme.
Tout ça.
C'est ça, ça le problème.
Ça, c'est pas vraiment... On va pas dire que c'est un problème, c'est une situation.
Non, mais c'est ce sur quoi vous travaillez.
Exactement. Et pas que, il y a le fait aussi de pas avoir de financement, d'être chez ses parents, d'avoir une situation stable ou pas stable, d'avoir... Il y en a qui sortent de dépression. Et les projets, ce sont les choses qui les remettent sur les rails. Et tout ça, en fait, ce sont des femmes qu'il faut écouter et qu'il faut accompagner dans leurs projets et dire, écoute, là, tu vois bien que tu vas pas avoir le temps de t'organiser. Il y a aussi le syndrome de la boss girl, ce qu'on appelle voilà, ces femmes qui, à cause de la société actuelle, qui se sentent obligées d'être parfaites. C'est-à-dire que mon projet doit marcher, je dois pouvoir l'expliquer correctement à ma famille.
Mais c'est incroyable ce que vous racontez là.
J'ai du stress.
C'était le livre de Michèle Fitoussi, qui est une journaliste de Elle, dans les années 80, qui s'appelait Ras-le-bol des superwoman et qui dénonçait déjà ça.
Exactement.
Et on est toujours à ce stade.
On est toujours.
Il s'est passé 40 ans, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé. On a ce stress de se dire, là, je suis enceinte, je vais pas pouvoir avancer sur ça, on va pas me donner ce que je veux parce que voilà, ils vont se dire que dans 3 mois, je serai plus efficace, etc. Tout ça, c'est des vrais problèmes qui sont trop peu exploités aujourd'hui dans le milieu féminin. Et nous, chez Source, c'est ce qu'on veut faire. Et avec Bias Media, c'est ce qu'on donne à ces filles-là. Et puis surtout, il y a une 13e chose qu'on veut exploiter, c'est l'énergie. C'est que nous, aujourd'hui, chez Bias, on est 3 fondatrices. Et quand il y en a une qui a un moment de baisse, il y a les 2 autres qui viennent, non, il faut qu'on continue, il faut que ça avance, on va faire ci, on va faire ça, on va tout casser, etc. Et là, dire aux filles, Sista, t'es pas seule. Sista, t'es pas seule. Moi aussi, j'ai eu des moments de doute. Moi aussi, je voulais claquer la porte au nez. Moi aussi, je voulais me séparer de mon mec parce qu'il comprend pas ce que je suis en train de faire. Oui, moi aussi, j'ai envie de claquer mes économies dans mon projet, mais non, fais pas ça. Voilà. Et on donne de l'énergie, on donne de la lumière aux filles.
Ouais, on est en plein dans la sororité. C'est la première fois que dans une discussion business, j'entends le mot Sista et ça me fait plaisir. Vous parliez toutes les deux de financement. Est-ce qu'il existe toujours ce plafond de verre qui fait que les banques, les banquiers, les banquières donnent moins d'argent, moins de financement ou moins facilement à des femmes plutôt qu'à des hommes?
Ah oui, oui. On sait que
on dénonçait ça, pardon de dire ça et dire mon âge, on dénonçait ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, là non plus, ça peut évoluer.
Ah oui, alors ça n'a effectivement pas changé. C'est toujours beaucoup plus compliqué pour une femme d'aller chercher des financements et notamment des prêts bancaires.
Y compris si la responsable de la banque est une femme?
Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas étudié. C'est une excellente question.
Merci.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire davantage justement de formation auprès de ces banquiers, auprès de ces organisations, pour les sensibiliser à ça. Maintenant, peut-être qu'effectivement...
Le métier a beaucoup changé. C'est plus le banquier. Il y a autant de banquières que de banquiers, j'imagine. D'où le sens de ma question.
Je comprends. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué pour les femmes d'aller chercher des financements. Et cette situation, elle s'est aggravée là, au moment de la crise justement économique et sanitaire, puisqu'en fait, il a été très compliqué pour les femmes d'aller chercher justement des financements et des prêts. Voilà, toujours aussi compliqué.
J'aurais bien posé la même question à Lina Mangala. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre le fait que les personnes dans les banques soient des hommes plutôt que des femmes?
Alors, pareil.
De votre vécu.
Moi, je n'ai pas expérimenté en fait, le fait que ce soit des hommes ou des femmes. Par contre, il y a une chose qu'on a expérimenté, c'est dans les demandes de financement que nous, on a pu faire chez BS Media, on s'est souvent retrouvés face à des hommes.
Ouais.
Et une fois sur deux, c'est refusé. C'est refusé parce que, bon, voilà, souvent, on nous donne des explications. Bon, bah, OK, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et souvent, c'est refusé puisque, à mon avis... Bon, alors, c'est toujours les mêmes questions. C'est, et l'avenir? Est-ce que vous êtes rentable? On veut le compte des résultats, le business plan. On veut savoir
oui,
si...
Bah ça, c'est normal.
Voilà. Mais du coup, c'est très étudié. On trouve que c'est plus étudié chez nous que chez d'autres. On regarde
chez vous, femmes, que chez d'autres,
hommes. Exactement.
Émilie Friedli, votre programme en est à la première phase, l'appel à candidature. Il reste 4 jours pour déposer un dossier d'inscription, la prépa 3 semaines pour l'incubation. Où est-ce que vous en êtes? Combien il y a de candidatures?
À ce jour, on a reçu 150 candidatures, ce qui, pour un programme comme celui-ci, pour nous, est énorme. Voilà.
Ouais.
Donc on fait le constat.
Parce que vous allez pouvoir en suivre combien?
On va pouvoir en suivre sur la première promotion 10 en prépa, 10 projets en prépa, 10 projets en incubation. Et sur le prochain cycle, on pourra accompagner davantage de porteuses de projets, c'est-à-dire monter à 20 et à 20. On est en train de réfléchir aujourd'hui à la manière dont on pourrait augmenter ce programme. Donc, on est à la recherche de cofinancement pour pouvoir accompagner davantage de porteuses de projets parce qu'on se rend compte qu'on répond à un besoin. On ne s'attendait pas du tout à avoir autant de demandes et de sollicitations. Voilà, on s'attendait pas du tout à ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ouvrir davantage? Et
ouais.
Donc, ce qu'on s'est dit également, c'est que sur un certain nombre de formats, rencontres, formations, on allait essayer d'ouvrir largement pour pouvoir, pour que finalement, ces formations ne soient pas uniquement réservées à 10 porteuses de projets, mais voilà.
La question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de jeunes femmes se posent en vous écoutant, comment vous contacter?
Alors, Aujourd'hui, les candidatures se font en ligne, sur le site. Vous téléchargez le dossier, vous le remplissez. Et on revient vers vous au moment de l'instruction des dossiers, si on a besoin d'échanger avec vous pour en savoir davantage.
Voilà, on peut trouver ça sur residencecreatis.com, c'est bien
exactement.
Ça.
Exactement.
Lina Mangala, de quelques mots de votre média que vous avez lancé en 2018 avec deux autres femmes, je vais les citer, Rokia Dosso et Sionou Mohane. Mohane, pardonnez-moi. Comment cela est-il été perçu? Les gens ne savaient pas que c'était un média bias dirigé par des femmes.
Non, pas du tout. C'est incroyable. Alors ça, c'est notre petite story. En gros, quand on a commencé... Alors nous, on a commencé à mini-chloter le projet en 2016. Donc on a commencé à mettre en place les réseaux sociaux, le site, etc. Et en 2018, on s'est officialisé. Et pendant tout ce laps de temps... Les gens pensaient qu'on était des garçons derrière un bias.
Ouais.
Et quand, par exemple, les gens nous rencontraient pendant des festivals ou ce genre de choses, « Ah, mais vous êtes les fondatrices de bias, my God ! En fait, vous êtes des femmes ! » Bah oui, en fait, on est des filles. Et souvent, ça surprend. Des fois, ça plaît. Et des fois, c'est « Waouh, la découverte !» Et c'est une joyeuse surprise.
Et est-ce que parfois, ça déplaît ?
Je pense pas. Je crois qu'une fois, on a eu un échange avec
une fois.
Une fois.
Une fois en plusieurs années, franchement,
voilà,
ça fait plaisir.
Voilà.
Qu'est-ce que vous a appris votre travail avec Creatis, Lina Mangala ?
Alors, qu'est-ce que ça m'a appris ? Alors, oui. Effectivement, alors en fait, justement, dans cette période, nous, on n'était pas trop interview, on ne se montrait pas, etc. Et quand on a fait les premières heures de l'incubation avec Creatis, on a rencontré du coup notre mentor, Rodolphe, donc d'ailleurs, qu'on passe au bonjour, et qui nous a... Alors, c'est un homme incroyable,
oui,
il
oui.
nous a...
Rodolphe, je m'en suis douté.
Il y a des hommes, il y a des hommes qui interviennent dans le programme.
Carrément. Et tout de suite, il nous a comprise. Alors, on a fait une réunion avec lui, et puis il nous a dit, bon, bah voilà, bias, c'est quoi ? On a commencé à raconter, etc. Il me dit, d'accord. Donc, en fait, vous êtes trois femmes noires à la tête de 250 000 abonnés dans le monde, et vous en parlez même pas. Stop, on arrête tout, posez vos stylos, et voilà.
Rien que ça, j'ignorais ce chiffre, 250 000 abonnés à By Us. Lina Mangala, vous en êtes la directrice du développement. Merci d'avoir été avec nous. Émilie Friedli, vous êtes la directrice générale de Creatis. Redonnez l'adresse du site pour qui veut vous contacter.
Oui, residencecreatis.com.
Source, programme qui vise à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneuses et de dirigeantes dans les médias. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Dans un instant, on va recevoir Samuel Etienne qui fête aujourd'hui même ses 5 ans à la présentation de Questions pour un champion. Mais évidemment, il va nous parler de sa nouvelle activité qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler et qui est très suivie de journalistes streamers, déjà 200 000 followers sur le réseau social Twitch. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Samuel Etienne.
Bonjour Philippe, comment ça va ?
Mais ça va très bien, et vous-même ?
Bah super, mais je suis en vacances, donc tout va bien.
Mais je sais que vous êtes en vacances, c'est pour ça que vous pouvez faire l'émission avec nous en direct, journaliste, mais
oui,
pas seulement.
Oui, je suis désolé, j'aurais bien voulu être là, mais voilà.
Vous n'êtes pas dans ce studio, où êtes-vous ? Sans trahir
en secret. Je suis à la montagne, j'ai emmené ma petite famille prendre un petit peu l'air.
Voilà, alors vous avez 4 casquettes, même 4 casques de ski. Vous présentez les infos de 6h du matin sur France 2, puis vous portez la matinale de la chaîne France Info, c'est le canal 27 de la TNT, de 6h30 à 8h30. L'après-midi, vous présentez Questions pour un champion et vous venez de lancer votre chaîne de streaming sur Twitch, la chaîne de gamers que vous n'êtes pas. Mais votre actu immédiate, c'est tout à l'heure, à 17h45 sur France 3. Vous allez célébrer vos 5 ans à la tête de Questions pour un champion. Alors je raconte aux auditeurs de Culture Média, habituellement, oui. On reçoit les émissions à l'avance. Je la regarde, je choisis des extraits, je les passe. Mais là, on n'a pas eu d'extrait, pas de vidéo, donc mystère. Question Samuel Etienne, qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure dans Questions pour un champion spécial 5 ans ?
Ben, ce sera comme le service public, ce sera sobre et raisonnable. Moi, j'ai une blague avec le producteur de cette émission depuis 5 ans. Je lui dis, tu sais, j'ai plein d'idées pour ce jeu. Il faut mettre des danseuses. c'est une vanne, évidemment.
Oui,
genre, comme au temps de Cocorico, Coco Boy, ce genre de choses totalement décalées.
Ouais.
Et évidemment, donc je m'étais dit, avec un peu de chance, on va me faire la blague. Il y aura des danseuses. Non, il n'y a pas de danseuses. Par contre, il y a un gâteau qui est plus grand que moi. Ça me fait plaisir. Et puis, il y a des belles surprises que j'ai découvert au dernier moment, c'est-à-dire que beaucoup de candidats mythiques de ce jeu avaient enregistré un petit message qui a été diffusé pendant l'émission et ça m'a fait super plaisir.
Donc c'est un petit peu une émission spéciale, mais en même temps inscrite dans la durée.
Oui, tout à fait. Alors, et elle m'a fait plaisir cette émission spéciale parce que j'ai vu que l'équipe s'était un peu décarcassée pour en faire une émission particulière, anniversaire malgré tout. Mmh. Et moi ça m'a fait plaisir parce que vous savez Philippe, il y a 5 ans quand j'ai repris les rênes de ce jeu. Il n'y a pas grand monde qui y croyait. La majorité des commentateurs disaient mais c'est un journaliste, il ne saura pas faire et c'est une mauvaise décision. Et j'ai montré par mon travail et puis par celui de toute l'équipe que finalement, je n'étais pas une si mauvaise idée que ça. Et on a fait ce qui semblait impossible à l'époque, c'est-à-dire qu'on a redressé les audiences de ce jeu qui existait à l'époque depuis 28 ans.
Exactement. Julien Lepers qui a tenu 28 ans, donc vous, il vous reste encore 23 ans à tenir jusqu'en 2044. Il y a quand même une nouveauté. Il y a une nouveauté aujourd'hui pour marquer le coup des 5 ans, une nouvelle règle. Samuel Etienne, expliquez la nouveauté.
Ah ouais, effectivement, ça c'est gros. C'est un jeu qu'on essaie de toiletter de temps en temps, c'est-à-dire qu'on garde les fondamentaux, tout ça, mais de temps en temps, évidemment, ce jeu il doit changer très légèrement pour évoluer avec son temps. Et là, on a cassé, à partir de ce soir, la sacro-sainte règle des 5 victoires. C'est-à-dire qu'à Question pour un champion, aux émissions quotidiennes, on ne peut pas dépasser les 5 victoires d'affilée. 5 victoires, on gagne la cagnotte, et puis ça s'arrête là, et on revient après super champion. Et j'ai proposé que, on fasse une petite révolution, et maintenant les candidats peuvent gagner 6, 7, 8, 9, à l'infini en fait, tant qu'ils gagnent. Et donc ça commence ce soir, et dans l'histoire du jeu, c'est une petite révolution, parce que ça n'est jamais arrivé, ça va provoquer des nouvelles aventures avec des candidats qui vont pouvoir rester plus longtemps.
Et du buzz, parce que ça peut vous permettre de créer des champions, des stars sur la durée, comme dans les jeux de Nagui ou de Jean-Luc Reichmann.
Oui,
avec qui peut battre le champion si quelqu'un tient 3 mois.
Mais à ceci près que on a une grosse différence avec ces jeux que vous venez d'évoquer, c'est que nous, notre champion, il n'est pas protégé. C'est-à-dire que souvent, dans ces jeux qui veulent faire émerger des champions, parce qu'on sait qu'en termes d'audience, c'est payant, c'est intéressant de suivre un feuilleton comme ça avec un champion. Le champion, il est protégé. Souvent, il ne joue que la finale, avec des règles que parfois même il choisit lui, des thèmes qu'il choisit, ce genre de choses. Alors que nous, notre champion, il doit repasser par toutes les manches. 9 points gagnants, 4 à la suite face à face. C'est pour ça que c'est très difficile de gagner à Question pour un champion, très difficile d'enchaîner les victoires. Ouais. Donc on ne va pas avoir des sauf.
Pardonnez-moi, je vous interromps. Oui. Vous l'avez enregistré quand, cette spéciale des 5 ans ? Il y a combien de temps ?
Il n'y a pas très longtemps, on n'a pas un gros décalage.
C'est pour savoir s'il y a déjà un champion qui a tenu plus de 5 émissions.
15 jours, 3 semaines. Et en avant-première, je peux vous dire qu'il y a effectivement déjà un champion qui a dépassé les 5 victoires.
Est-ce que vos candidats connaissent bien les règles du jeu ? Je vous pose la question, parce que chaque jour, vous posez une question aux téléspectateurs qui peuvent également gagner une belle somme depuis chez eux. Et l'ami Bertrand Chamerois, qui ne rate rien, a bien regardé Question pour un champion. Il a noté ceci, les candidats répondent à toutes les questions, même celles qui ne leur sont pas destinées.
Ah, quelle confiserie offre-t-on traditionnellement lors des baptêmes ? Non, Françoise, c'est pour les gens à la maison. Lequel de ces objets peut être considéré comme un porte-bonheur ? 1. Un fer à repasser. 2. Un fer à cheval. Maxime, c'est pour le téléspectateur en fait.
Mais quand même, il devrait connaître l'émission, non ? Il devrait regarder tous les jours.
Oui, en fait, ils la connaissent par cœur, mais ils sont tellement prêts, ils sont tellement chauds. Ils savent que ça va aller tellement vite à la première manche, les 9 points gagnants, qu'ils sont hyper concentrés. Ils entendent une question.
Ouais.
Et certains buzzent en fait. Ils se rendent pas compte que c'est la question qu'on appelle la question audiotel, qui est réservée aux téléspectateurs, qui est beaucoup plus facile d'ailleurs que les questions qu'ils vont avoir.
Évidemment.
Et ça manque pas. De temps en temps, j'ai un candidat qui veut répondre.
Alors, à pas se mentir, Samuel Etienne, quand vous êtes arrivé dans l'émission, je me souviens, j'ai retrouvé les papiers de l'époque il y a 5 ans, vous disiez être très à l'aise. Puis après coup, évidemment, la vision est différente. Et maintenant, vous dites avoir mis 1 an et demi pour totalement apprivoiser le format.
Oui, parce que j'avais un métier à apprendre. Moi, j'étais journaliste. Depuis le début, c'était vraiment un nouveau métier, celui d'animateur. Je n'étais plus là pour informer, j'étais là pour faire passer un bon moment aux gens. Et évidemment que c'est un métier à part entière que j'ai dû apprendre. Il n'y a pas d'école que j'ai appris sur le tas. Au début, je n'étais pas super content de mes prestations. Je me regardais et puis je trouvais ça, franchement, je n'étais pas emballé.
Ouais.
Et puis, il y a eu un déclic qui a pris un an et demi. Au bout d'un an et demi, j'ai regardé les émissions et j'ai commencé à sourire, à rire à mes propres vannes, à passer un bon moment. Je me suis dit, ça y est. Là, tu as trouvé un truc, tu as trouvé des fils à tirer.
Attention, parce que ça, c'est aussi un mauvais indicateur. Quand on commence à rire à ses propres blagues,
c'est pas toujours très
positif.
Si, je suis super dur avec moi-même.
Bon, formidable.
Et franchement, avant un an et demi, je regardais et j'étais pas convaincu. Et puis, voilà, des choses se sont mises en place, notamment une envie de plus de sourire, plus de rire. Je veux une émission qui soit détendue. Ouais. Je veux une émission, Philippe, même quelqu'un qui ne trouve aucune réponse, quelqu'un qui regarde depuis chez lui, qui n'a aucune réponse, vraiment, le niveau est tel.
Attention.
Et il regarde quand même parce qu'il passe un bon moment.
Attention, le chrono tournait, Samuel Etienne. Et justement, on doit marquer une toute petite pause. On n'a pas encore parlé de Twitch, dont on apprend que vous êtes la star désormais. Samuel Etienne avec nous dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Samuel Etienne, présentateur, journaliste, il présente Question pour un champion et aujourd'hui, il fête ses 5 ans à la tête de l'émission. Alors, il faut le dire, jusqu'à il y a moins d'un an, Samuel Etienne, vous étiez un animateur, un journaliste très compétent, mais un peu comme les autres, et puis soudain, tout a changé. Je cite 20 minutes, le journal. Vous êtes la star de Twitch. Pour un autre journal que j'ai oublié, vous êtes l'idole des moins de 30 ans. Et pour Le Monde, vous êtes désormais le journal Le Monde, le chouchou du web français. Il y a 10 mois, vous ignoriez l'existence de Twitch. Alors on va se remettre 10 mois en arrière, expliquer le principe de Twitch et le principe de la chaîne que vous avez créée et qui cartonne 200 000 followers. Et ce nombre ne cesse de grossir, évidemment, chaque jour.
Oui, ça va très vite. Là, on est à 270 000.
C'est 270 000, oui.
Étonnant. Je vous avoue que même moi, je ne comprends pas, Philippe, tout ce qui se passe autour de ça, mais c'est une belle aventure. Twitch, c'est quoi? C'est une plateforme de diffusion en direct. C'est-à-dire n'importe qui, Philippe, vous, moi, avec un ordinateur, une petite caméra, peut créer sa propre chaîne et diffuser les programmes qu'il a envie de diffuser. En l'occurrence, moi, j'ai eu l'idée de, comme j'adore lire les journaux, la presse écrite, de proposer une revue de presse qui est un très vieil exercice. Ouais. Et je m'attendais à quelques dizaines, quelques centaines de téléspectateurs et j'étais très surpris. Très vite, il y a eu 10 000, 12 000, 13 000, 14 000 personnes en direct le matin. Je fais ça en général entre 9h30 et 11h. Plus de 100 000 diffusions en replay. Le nombre d'abonnés que vous avez évoqué, je vous avoue, je n'ai pas compris tout. Pourquoi
je
ce
souris,
succès,
je mais, souris parce que déjà, c'est fascinant. Je souris parce que déjà, vous parlez un petit peu à l'ancienne. Pardon de vous dire ça, vous avez dit téléspectateurs. Sur Twitch, ce ne sont pas des téléspectateurs.
Oh, affreux. Affreux la boulette, surtout pas. Ah oui, la boulette, ce sont des viewers. Et ils ont raison de pas vouloir qu'on les appelle téléspectateurs parce que, contrairement à un téléspectateur qui est forcément passif, qui regarde un programme, qui peut pas intervenir dessus, eux sont extrêmement actifs puisque c'est l'un des aspects les plus intéressants de Twitch. Celui ou celle qui regarde, le viewer ou la vieweuse, peut commenter, interpeller la personne qui propose le programme dans le chat. Il écrit des messages et le streamer, puisque c'est le terme consacré pour celui qui propose le programme, lit les messages, interagit, et du coup le programme évolue en permanence en fonction des réactions de ceux et celles qui regardent. C'est ça la révolution, cette interactivité à laquelle, quand on y a touché, ce que j'ai commencé à faire il y a un peu plus de 2 mois, après on devient totalement addict parce que c'est extrêmement puissant.
Et oui, contrairement à YouTube par exemple, et puis c'est en direct, et en même temps, ce qu'on n'a pas dit, mais peut-être que ça va disparaître, plutôt cette caractéristique, c'était qu'à la base, c'est une chaîne de gamers, de gens qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo. Alors, le succès était tel que vous avez été invité, Samuel Etienne, dans le 20h30 de Laurent Delahousse, c'était le 7 février, en direct. Et alors, au lieu de rester dans les loges en attendant votre tour, en attendant 20h30, vous avez demandé à vous installer dans un coin du studio. Il est 19h45, et vous avez balancé du streaming en direct, on vous écoute.
Comment ça va les amis? J'ai besoin de vous encore plus que d'habitude. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça marche comme d'habitude ou pas? Est-ce que ça va le son d'abord? Mais attendez, vous êtes trop nombreux dans le chat là, ça va pas être possible. Ça va beaucoup trop vite. Bon bah voilà, c'est un peu foufou. Il est 19h47, on est en direct sur le plateau du 20h de France 2. Alors, soyez pas surpris, parfois je vais parler un petit peu comme ça, un peu tout bas, parce que Laurent Delahousse va arriver dans un instant. Là, il va s'installer, il va faire les titres. Et alors, pourquoi je suis là? Bonne question. Un petit peu faible le son, vous voulez que je le monte? Est-ce que ça va le son? Ou est-ce que vous voulez que je le monte? Dites-moi les amis. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, Laurent Delahousse, très gentiment, m'a invité dans 20h30 dimanche. Hein. Le son un peu faible? Mais je vais vous monter ça, moi.
Alors, on a laissé ce son d'abord parce que vous chuchotez encore plus doucement que d'habitude, Samuel Etienne. Et on voit qu'on est dans le temps long. On n'est pas bim, 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 bim. Vous avez vraiment le temps de vous installer. Et ça suscite des vocations, ce que vous faites sur Twitch. Il y a Thierry Beccaro qui a annoncé qu'il arrivait sur Twitch. Et dès le lendemain du lancement de votre chaîne, le directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, vous a contacté pour vous proposer quoi, pour vous dire quoi?
En fait, Laurent, lui, il baigne dans ça depuis très longtemps. Il connaît le numérique, l'information 2.0. Il est sur Twitch depuis des années, donc il connaît ça par cœur. Et lui, qui est arrivé à la tête de l'info de France Télévisions il y a un petit peu avant l'été, il a très envie que France Télévisions fasse des petits pas vers ces univers, tente des choses, non pas que Internet et la télévision fusionnent, que Twitch et la télé fusionnent, mais qu'il y ait des passerelles qui se créent. Et il m'a demandé, comme j'avais été un petit peu le premier à France Télévisions à me lancer là-dedans, si je voulais bien accompagner le groupe dans ce développement. Et ça a donné un premier stream par la chaîne Twitch de France Télévisions il y a quelques semaines, avec Damien Mascret, médecin et journaliste sur France 2, et pendant plus de 2 heures, on a répondu à toutes les questions des viewers sur les vaccins contre le Covid-19. C'est une première expérience et puis il y en aura d'autres.
Et vous avez vu que TF1 vous a suivi. La chaîne TF1 va lancer en mars une émission spécifique sur Twitch. J'imagine que vous avez vu ça. Vous êtes également présentateur de la tranche 6h30, 8h30 sur la chaîne France Info. C'est le canal 27 de la TNT. Pour l'instant, France Info est dernière. Pardon de dire ça, c'est celle qui marche le moins bien. BFM TV est devant. Ça se joue la bataille entre LCI et CNews pour la deuxième place. Vous visez la deuxième place. Que vous inspire le succès et surtout la remontée fulgurante de CNews? Comment comptez-vous les combattre?
Alors France Info est la dernière aujourd'hui parce que c'est la dernière née, hein, tout simplement. La chaîne est pas vieille. Moi qui ai bien connu ITL pour y avoir travaillé 9 ans et qui ai suivi les débuts d'LCI et de BFM, quand on regarde où on est France Info aujourd'hui après 5 ans, et quand on regarde les audiences de BFM après 5 ans, on est au même niveau. Donc ça, c'est normal. La matinale n'est déjà plus la dernière. La matinale que je présente sur France Info, elle est déjà troisième matinale de France.
C'est l'avant-dernière. Elle est derrière vous.
Voilà. Mais et puis parfois deuxième sur la tranche des jeunes. Donc moi, je suis très optimiste. Et effectivement, je suis persuadé qu'à terme, France Info va devenir à minima la deuxième chaîne des infos en France. Donc, j'ai pas d'inquiétude là-dessus.
Samuel
Quant à CNews...
Allez-y, d'un mot, d'une seconde.
Oui, bah CNews... j'ai des confrères là-bas que je respecte beaucoup. C'est juste que ce qui fait le succès de CNews, c'est du débat et parfois du débat très polémique. La question est de savoir, c'est est-ce que c'est encore... de l'info? Est-ce que c'est encore du tout info? Je pense qu'on s'éloigne du modèle tout info. France Info a fait un autre choix. On est dans le décryptage, dans l'explication sur l'actualité. Je suis plus à l'aise dans ce format-là. Ouais. Après, je reconnais le travail et le succès de mes confrères. Il n'y a pas de souci.
Samuel Etienne, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, question pour un champion. C'est à 17h45 sur France 3. Et vous continuez à streamer depuis la montagne ou pas?
Bah en fait, là, dans 2 minutes, je vais commencer un stream en direct pour 2 heures. Parce que vous parliez de la.
Ça marchera pas parce que nous, dans 2 minutes, on est à l'antenne. J'avais quelque chose à annoncer. Donc, je vous coupe, je vous censure, Samuel Etienne. Et je l'assume. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc sur la grande histoire des Alpes. On va peut-être croiser Samuel Etienne. Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Johnny. Et puis, notre invité, c'est l'écrivain Patrick Besson pour son ouvrage Niceville. À tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.